RCF.
Et nous évoquons toute cette semaine la doctrine sociale de l'Église, et notamment à partir d'un livre qui s'appelle « Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter », publié aux éditions du CERF. Et c'est vous, frère Jacques-Benoît Raucher, qui en êtes l'auteur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dominicain, et parmi les thèmes de réflexion sur lesquels vous vous arrêtez, il y a celui de la guerre, plus précisément même celui de l'entrée en guerre. Quelles questions se pose un chrétien, justement, lorsqu'il est confronté à une guerre sur son territoire ou sur celui d'un autre? Est-ce qu'il y a une guerre juste, comme l'Église l'a longtemps dit aussi?
Alors, c'est une question qui a été épineuse à travers les siècles, et dès l'origine pour les chrétiens, parce que on se dit forcément, si on lit l'Évangile, le Christ nous dit « si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre ». On voit même au moment de son arrestation qu'il dit à Pierre « range l'épée au fourreau, Pierre ». Donc on aurait l'impression d'un Jésus radicalement non-violent. Et pourtant, les premiers chrétiens se sont dit « on ne peut pas proscrire par définition la violence parce qu'on ne vit pas dans un monde qui est pur et parfait ». Et donc, ils ont mis en place un certain nombre de critères, ou ils ont repris des philosophes païens un certain nombre de critères qui pouvaient permettre de penser notamment la guerre juste. Et ces critères, ils sont de deux grandes catégories. C'est qu'est-ce qui justifie une entrée en guerre, et comment est-ce qu'on se comporte quand on est entré en guerre. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête le fait que les chrétiens aient voulu avoir pour définir la guerre juste ces deux éléments. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de viser une fin bonne, il s'agit aussi de choisir de bons moyens. Il ne s'agit pas simplement de dire « je fais la guerre pour des bonnes raisons et donc tous les coups sont permis », mais je fais la guerre pour des bonnes raisons et en plus je me comporte correctement en menant cette guerre.
Pendant la guerre.
Pendant la guerre, voilà. Et ça, c'est les deux critères.
Alors, dans ces critères, vous le disiez, qu'est-ce qui justifie une entrée en guerre? C'est quoi la réponse?
Alors, c'est évidemment complexe. Il faudrait des heures et des heures pour en parler dans tous les détails. Mais déjà, c'est rétablir une injustice notoire qui aurait été commise. On ne fait pas la guerre, par exemple, pour se venger simplement d'une agression qui aurait été menée. On ne fait pas la guerre non plus sans possibilité réelle de penser atteindre un but qui sera plus favorable à la paix. Par exemple, on ne fait pas la guerre pour se dire de manière un peu suicide, voyez, en se disant j'ai aucune capacité à vaincre, mais je vais infliger des pertes énormes à mon ennemi pour simplement laver un honneur bafoué. Non, je fais la guerre en vue, en gros, de pouvoir rétablir la paix. Ça, c'est un critère important que saint Augustin fixe en disant il faut qu'on ait beaucoup discuté avant pour éviter la guerre, mais si c'est la seule solution pour arriver à la paix, à une paix durable, on peut admettre que la guerre existe. Mais c'est toujours en vue de la paix. C'est jamais pour un déchaînement de violence.
Alors vous nous avez parlé du Christ, mais si on remonte encore plus loin à l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous faites du Dieu guerrier, du Dieu qui encourage à la bataille, du Dieu qui soutient ceux qui vont justement dans d'autres terres?
Alors ça, je crois que c'est déjà une question qui est plus fondamentale encore que cette question de la guerre, c'est comment est-ce qu'on lit la Bible, et notamment comment est-ce qu'on lit dans l'Ancien Testament des textes qui peuvent nous déranger. Il y a un critère qui est quand même absolu, c'est de toujours lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau et notamment à la lumière du comportement du Christ. Et c'est vrai que les problématiques, notamment de guerre et de conquête qui sont présentées dans l'Ancien Testament, un chrétien ne peut pas les reprendre telles quelles, parce que le Christ apporte quand même quelque chose de nouveau à cet égard.
Vous le disiez, il y a cette première raison qu'on évoquait. Donc, est-ce que c'est un problème réellement grave qu'il faudrait résoudre par la guerre? Est-ce que c'est aussi qui la demande, cette guerre? C'est-à-dire d'où elle vient, d'où vient l'idée qu'il faille mener une guerre? Ça, c'est important aussi.
Oui, c'est alors à la fois quel est le dommage subi, est-ce que le dommage est suffisamment grave pour pouvoir engager une guerre? Et puis, il faut que ce soit une autorité légitime qui le demande. Donc, c'est une guerre qui serait déclenchée, par exemple, par un groupuscule au sein d'une nation, et quelque chose qui est évidemment pas possible. Mais encore une fois, j'insiste, c'est vraiment le dernier recours, cette guerre. C'est pour ça qu'on demande que ce soit une autorité légitime qui la déclenche, qui ait une vraie raison pour laquelle on entre en guerre et qui ait une vraie chance de l'emporter et d'arriver à la paix. Donc c'est vraiment le dernier recours, après beaucoup de discussions, qui devrait avoir lieu. Donc c'est normalement très rare.
Alors, on parlait de la guerre juste, c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler, et de fait, c'est quelque chose que l'Église a pu défendre pendant plusieurs dizaines d'années, mais sur lesquelles elle est revenue à la faveur, entre guillemets, de cet événement guerrier, de cet événement militaire, c'est l'arrivée de la bombe atomique. Ça a modifié la position justement de l'Église. On disait que l'Église n'était pas insensible à ce qui traverse notre époque. Là, c'est typique.
Oui, là c'est typique. Alors, je dois te donner d'abord une toute petite précision. Il y a toujours eu des courants pacifistes dans le christianisme qui n'ont jamais été condamnés en tant que tels, mais qui n'ont jamais non plus été la position officielle de l'Église. Donc voilà, c'est. Mais c'est vrai que dans son dernier texte, sa dernière encyclique, le pape François, donc Fratelli Tutti, en 2020, dit « On ne peut plus aujourd'hui parler de guerre juste comme on le faisait dans la tradition ancienne ». Et entre autres choses, il évoque cette question de la bombe atomique et des armes de destruction massive. Et effectivement, je crois que c'est une évolution absolument capitale qui montre qu'on est passé à une autre réalité. Parce que, on le disait tout à l'heure, dans les principes de guerre juste, il y a l'idée de dire « je vais infliger à mon ennemi quelque chose qui est proportionnel au dommage que j'ai pu subir. Qu'est-ce qui est proportionnel à une force de destruction telle qu'une bombe atomique ? On le sait, c'est une autre bombe atomique. Et ça ne va pas très longtemps continuer comme ça, parce qu'on a la possibilité de détruire l'ensemble de l'humanité si on échange simplement quelques tirs de cette nature. Donc on est devant une puissance de destruction que l'humanité n'avait pas connue avant la moitié du XXe siècle.
Jacques Benoît Rocher, est-ce que l'Église est crédible quand elle écrit sous la plume de Benoît XVI en 2007 dans une déclaration « Pour les chrétiens, la non-violence n'est pas un simple comportement tactique, mais bien une manière d'être de la personne, l'attitude de celui qui est tellement convaincu de l'amour de Dieu et de sa puissance qu'il n'a pas peur d'affronter le mal avec les seules armes de l'amour et de la vérité ». Est-ce que c'est entendable ? Est-ce que c'est pas trop idéaliste ?
Alors, je crois que c'est entendable, mais évidemment avec le reste du discours. C'est-à-dire, je crois qu'il y a bien des solutions où il faut se dire, oui, l'évangile n'est pas juste un espèce de conte de fées. Quand le Christ nous dit de ne pas utiliser la violence, il y a des situations où il faut l'appliquer dans notre vie personnelle, mais peut-être aussi dans la vie politique. En même temps, il ne faut pas non plus en faire un principe absolu qui devrait n'être que cette ligne directrice-là. Encore une fois, il y a bien des situations aussi où l'Église a reconnu qu'on pouvait faire usage de la violence, malheureusement, parce que d'autres solutions n'avaient pas pu être envisagées.
Derrière ce thème de la guerre, ce qui vous a intéressé, c'est de vous arrêter aussi sur un des grands principes de la doctrine sociale de l'Église. C'est celui de la dignité humaine qui va être, en fin de compte, en toile de fond de toute cette réflexion sur la guerre.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'encore une fois, si j'accepte que la guerre soit menée, c'est pour défendre une dignité bafouée, par exemple des gens qui se sont fait voler des terres ou qui ont été spoliés dans des droits fondamentaux. Mais évidemment, on le sait malheureusement aujourd'hui, la guerre est souvent une négation encore plus grave de la dignité humaine à travers les méfaits qu'elle fait subir aux populations notamment qui la subissent.
Mais est-ce que vous diriez qu'il y a une limite justement à ça, à la guerre, à la dignité humaine ?
Il n'y a jamais de limite à la dignité humaine, ça c'est clair. Et on le sait, ça le pape François l'a souligné justement dans son encyclique Fratelli Tutti, souvent la guerre suscite des manières de bafouer la dignité humaine qui sont extrêmement graves et qui s'étalent sur plusieurs générations, sur plusieurs années. Moi, je sais, j'ai la chance de vivre avec des frères qui viennent de contextes extrêmement différents. Et je sais que les frères qui ont connu la guerre eux-mêmes dans leur propre pays, qui ont grandi dans un contexte de guerre, en restent marqués absolument toute leur vie. Et je crois que ça, on s'en rend heureusement plus trop compte dans notre pays, en France. Mais on ne peut pas faire la guerre de façon légère.
Mais qui aujourd'hui peut défendre une guerre légère ? Qui aujourd'hui dirait que ça reste la solution pour faire justice, justement, alors qu'on a désormais des institutions internationales qui existent ? On a des associations aussi qui sont prêtes à justement favoriser ces dialogues. On peut évoquer Saint-Égidio, par exemple, qui est quand même à l'origine de certaines négociations de paix. C'est une association chrétienne. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a encore une défense de la guerre ? Est-ce que c'est une question naïve ?
Non, pas du tout. Et c'est vrai qu'on peut se réjouir quand même qu'on ait énormément d'évolutions, que ce soit ces institutions internationales, ces moyens de pression des organisations non gouvernementales qui existent pour essayer d'éviter la guerre. Mais qu'est-ce qui fait que ça continue ? Malheureusement, c'est que le mal est toujours à l'œuvre dans le cœur de l'homme. Je vous prends un exemple très concret. Quand Daesh a émergé en Syrie et en Irak, malheureusement, on ne pouvait pas se dire on va négocier avec des gens comme Daesh. Et donc, pour essayer de lutter contre eux, on a dû utiliser des moyens qui étaient des moyens guerriers. et là, je crois que c'est un des cas dans lequel on peut malheureusement pas faire autrement quand on a affaire à des adversaires comme ça et qui réduisaient en esclavage, voire qui tuaient de façon absolument barbare un certain nombre de personnes sur le territoire qu'ils occupaient. Donc voilà, là, c'était pas faire preuve de naïveté que de dire qu'il fallait utiliser des moyens violents pour lutter contre un ennemi pareil.
Alors, la dignité humaine, elle traverse cette question de la guerre, elle traverse d'autres domaines finalement, et c'est aussi pour cela que c'est l'un des socles en quelque sorte de cette doctrine sociale de l'Église. Est-ce que c'est si simple de dire qu'il y a une dignité humaine comme une évidence transcendantale, ou est-ce qu'au fond, après tout, chacun peut avoir aussi une conception de la dignité humaine ?
Ben je crois que justement là c'est quelque chose où le chrétien a une chance d'avoir précisément un fondement un peu transcendant là qui est posé. Non, chaque être humain a une dignité qu'on peut tous reconnaître quelle que soit notre confession de foi. Mais en plus le chrétien se dit cette dignité, le Christ me rappelle qu'il a donné sa vie pour que l'homme garde cette dignité, pour que l'homme ne reprenne pas les chaînes de son ancien esclavage, comme disait saint Paul. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental, et que ce soit sacré pour le chrétien, eh bien, je crois que c'est aussi un très beau critère de discernement, c'est-à-dire se dire il y a certains domaines dans lesquels on ne transige pas, il y a certaines choses sur lesquelles on ne va pas débattre. Moi, j'aime beaucoup la démocratie et le débat démocratique, mais il faut dire aussi, la démocratie, elle peut devenir folle. Si on se mettait d'accord à 98% d'une population pour voter qu'on va aller exterminer une partie de l'humanité, et qu'on était, allez, 99,9% d'accord pour dire qu'on extermine les 0,1% qui restent, ce serait très démocratique. Et bien pourtant, ce serait contraire à la dignité humaine. Et donc ça, je pense que d'avoir un principe transcendant qui nous dit la dignité humaine est quelque chose auquel on ne touche pas, c'est au contraire quelque chose qui maintient la grammaire de notre démocratie, et c'est quelque chose que l'Église doit être fière de pouvoir défendre.
Merci beaucoup, frère Jacques-Benoît Raucher. Vous êtes dominicain, auteur du livre « Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter aux éditions du Cerf ». On vous retrouve demain.
Merci.